Vous écoutez Radio Auravive, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Auravive Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intervention militaire israélienne au Liban en 1982. L'opération Paix en Galilée, la translittération Mitzvah Shalom la Galil, ou invasion du Liban en 1982, est un épisode de la guerre du Liban au cours de laquelle l'armée israélienne envahit le sud du Liban à partir du 6 juin 1982, officiellement dans le but de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP lancées depuis le Liban. Le contexte était que, depuis 1976, la Syrie a imposé un cessez-le-feu car elle n'avait jamais accepté l'indépendance du Liban, qualifiée par elle de « petite Syrie », et propose un rééquilibrage du partage des pouvoirs entre communautés. Le président syrien, Hafez al-Assad, ordonne l'entrée des troupes et de blindés au Liban à cette date dans le but de préserver le statu quo et mettre en échec les ambitions des palestino-progressistes. Grâce à l'intervention militaire et diplomatique des puissances régionales arabes, le président libanais et le chef de l'OLP sont convoqués à Riyad cette même année. Ils sont invités par l'Arabie saoudite et l'Égypte à reconnaître la légitimité de la présence des troupes syriennes au Liban et officialisent par la mise en place de la force arabe de dissuasion. Cette présence militaire souffle sur les braises et enferme les Libanais dans des luttes internes. La Syrie écarte Raymond Hédé de la présidence car il avait fait du départ des troupes étrangères le premier point de son programme. Les efforts pour rétablir l'entente nationale ne progressent pas et de violents affrontements opposent l'armée syrienne aux milices chrétiennes en 1978. Justement cette année-là, dans le sud, le gouvernement israélien, suite aux nombreuses attaques sur les villes du nord d'Israël, organisées par l'OLP depuis le Liban, décide d'une offensive dans le sud du pays. C'est l'opération Litanie. Elle vise à repousser les milices palestiniennes au nord du pays et s'emparer de la rivière Litanie. Après plusieurs semaines en territoire libanais, les troupes israéliennes se retirent partiellement, laissant la région à l'armée du sud Liban. Des tirs de Katyushka par des militants de l'OLP pendant plusieurs semaines font monter la tension dans la région. Le 3 juin 1982, un commando de l'organisation activiste palestinienne Abu Nidal tente d'assassiner l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, le blessant gravement. Ainsi, dans cette guerre, nous avons les protagonistes suivants, l'armée d'Israël, Tsahal, qui est soutenue par l'armée du Liban Sud, et les phalanges libanaises, des milices libanaises majoritairement chrétiennes. Le premier ministre israélien de l'époque est Menachem Begin, tandis que Raphaël Etan est le chef d'état-major de Tsahal et Ariel Sharon, le ministre de la Défense. Le principal adversaire de Tsahal est l'OLP, allié aux forces armées syriennes et à plusieurs groupes de résistance libanais, dont les plus importants sont le Parti socialiste progressif de Walid Jumblatt et les milices de Hamal, du Parti nationaliste social syrien, ainsi que celle du Parti communiste. Le chef du Fatah et de l'OLP est Yasser Arafat. Nous pouvons tout de suite évoquer les pertes qui se sont occasionnées durant cette guerre. L'armée israélienne a perdu 670 soldats lors de ce conflit, portant malheureusement à 1216 le nombre total de soldats tués entre les années 82 et 2000. 17 825 Arabes sont morts durant cette guerre, dont au moins 10 000 furent des soldats de l'armée syrienne ou des milices palestiniennes. Officiellement, 35 militaires soviétiques de l'armée rouge sont morts durant ce conflit au Liban. L'OLP tire sur les villes israéliennes à partir de Beyrouth, mettant en danger les populations civiles. De son côté, l'armée israélienne opère une contre-attaque dans les camps palestiniens du Liban Sud, qui refusent majoritairement de se rendre. D'une manière générale, la frontière entre civils et militaires est devenue extrêmement ténue pour tous les belligérants. Dès le 11 juin, un premier cessez-le-feu est proclamé entre les troupes armées palestiniennes postées dans le Liban Sud et l'armée israélienne, mais le refus de l'OLP de quitter Beyrouth entraîne la reprise des combats. Au milieu du mois d'août, un accord est trouvé pour l'évacuation des Palestiniens et des forces syriennes de Beyrouth. L'évacuation fut réalisée sous l'égide d'une force internationale. Les Palestiniens furent évacués par voie maritime, notamment vers Tunis. Et les Syriens furent évacués par la route vers les territoires détenus par leurs services armés dans la région de la Bekaa. L'évacuation fut achevée le 31 août. Les forces françaises sont présentes à Beyrouth du 21 août au 13 septembre. Les forces américaines sont présentes du 25 au 10 septembre. Les forces italiennes du 26 août au 12 septembre. Les forces internationales ont quitté le Liban plus tôt que prévu, sans avoir réalisé les objectifs de leur mission. Et l'assassinat de Bachir Gemayel a lieu le 14 septembre. Bachir Gemayel venait d'être élu président de la République et il était l'allié d'Israël et voulait reconstruire le Liban en faisant la paix avec son voisin. Il a été assassiné, semble-t-il, par un milicien du PSNS et ce meurtre engendra le massacre de Sabra et Shatila. Je vous propose maintenant quelques instants de musique.
ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. כי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל.
Nous reprenons le fil de notre histoire. Maintenant, je vais vous parler d'événements durs. Je vais vous parler du massacre de Sabra et Shatila. Le massacre de Sabra et Shatila a été perpétré du 16 au 18 septembre 1982 envers des Palestiniens du quartier de Sabra et du camp de réfugiés palestiniens de Shatila, situé à Beyrouth, ouest. Selon les estimations, il fit entre 460 et 3500 victimes. Les milices chrétiennes et phalangistes avaient reçu pour mission de l'armée israélienne, qui encerclait la zone, d'extraire de Sabra et de Shatila les combattants palestiniens de l'OLP. Ils y pénétrèrent sans résistance et y commirent le massacre de la population civile durant 48 heures. Le massacre est présenté comme étant une vengeance de l'assassinat de leur leader, le président libanais Bachir Gemayel, quelques jours plus tôt. Une commission d'enquête, la commission Kahan, fut chargée par le gouvernement israélien d'enquêter sur le massacre. Elle conclut à la responsabilité directe des phalangistes et à la responsabilité indirecte de plusieurs dirigeants israéliens lors de la conduite de cette opération, pour n'avoir pas tenu compte suffisamment du risque d'un massacre et pour ne pas avoir tenté suffisamment de le prévenir. En 1982, une commission indépendante considère qu'en tant que puissance occupante, Israël porte une responsabilité quant à ces violences. Nous voyons le déroulement. De 1975 à 1990, des factions armées issues des composantes politiques, religieuses ou éthiques de la société libanaise se sont livrées à des affrontements sanglants durant la guerre civile libanaise. Le bilan des différents combats, massacres et exactions qui ont marqué cette guerre civile serait d'au moins 150 000 morts. L'OLP utilise le sud du Liban comme base pour mener des attaques contre Israël, qui répond en bombardant des positions de l'OLP au Liban du Sud. La première attaque palestinienne contre les phalanges libanaises a lieu en avril 1975. Les Palestiniens tentent d'assassiner Pierre Gemayel alors qu'il inaugure une église dans la banlieue de Beyrouth. Les tensions ne cessent d'augmenter entre musulmans et chrétiens jusqu'à l'attentat du 14 septembre 1982 qui tue Bachir Gemayel, le fils de Pierre, président élu du Liban. Habib Tanius Chartouni, militant chrétien pro-syrien du Parti social-nationaliste syrien, est accusé de l'assassinat et emprisonné. Le 3 juin, l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, est grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. L'OLP, bien sûr, nie toute responsabilité. Ariel Sharon, ministre de la Défense, ordonne le bombardement des bases de l'OLP à Beyrouth, auquel l'organisation palestinienne répond par une recrudescence des tirs de roquettes contre le nord d'Israël. L'enchaînement de ces événements fournit à Israël au moins un casus belli qui donne lieu à l'opération Paix en Galilée. Le 6 juin, Israël envahit le Liban avec pour objectif immédiat de mettre les roquettes de l'OLP hors de portée d'Israël, ainsi que de s'allier aux milices chrétiennes à Beyrouth pour en chasser l'OLP. Le 1er septembre 1982, le premier ministre israélien Nehamen Begin s'entretient avec Bachir Gemayel à Nayara, en Israël, et propose la signature d'un traité de paix. Gemayel remet la signature de cet accord à plus tard, arguant qu'il a besoin de temps pour convaincre les forces en présence et les pays arabes, et propose un pacte de non-agression. Le 14 septembre 1982, Bachir Gemayel est assassiné lors d'un attentat à la bombe. Des soupçons se portent sur Habib Tanius Chartouni, qui s'avérera plus tard être membre du Parti social-nationaliste syrien. L'armée israélienne répond à l'assassinat de leur allié en investissant Beyrouth-Ouest dès le lendemain. Et Ariel Sharon déclarera plusieurs jours plus tard à la Knesset « Notre entrée dans Beyrouth-Ouest était destinée à détruire l'infrastructure laissée par les terroristes. » Essayons d'entrevoir la chronologie du massacre. Dans la nuit du 14 au 15 septembre 82, Rafael Etan, chef d'état-major israélien, s'envole pour Beyrouth. Il se rend au siège des phalanges libanaises et donne l'instruction au commandant des phalanges de mobiliser ses troupes et être prêt pour faire partie de l'attaque contre Beyrouth Ouest à venir. Les phalangistes répondent qu'ils ont besoin d'un délai de 24 heures pour pouvoir s'organiser. Il est prévu qu'un officier de liaison phalangiste soit présent au quartier général de l'armée israélienne. Selon tous les témoins qui visitent les lieux de déposition, interrogé par la commission Kahan, la situation offre une bonne vue générale sur les camps, mais ne permet pas de voir ce qui s'y passe dans les ruelles, même à la jumelle. Etan rapportera plus tard avoir eu des contacts avec des miliciens Mourabitoun la nuit du 14, lui disant à quel point il redoutait d'être tous tués par les phalangistes. Le 15 septembre matin, l'armée israélienne commence à attaquer Beyrouth Ouest. Passé l'effet de surprise, des combats interviennent à différents endroits. Des tirs nourris provenant du camp de Shatila font un mort et 20 blessés dans l'armée israélienne. Ariel Sharon, venu sur place, informe Nehamen Begin que la situation est sous contrôle. Ce dernier, lors d'une conférence avec l'ambassadeur des États-Unis, lui confirme que l'armée israélienne contrôle Beyrouth Ouest et qu'il fait confiance aux phalangistes. Pendant les journées du 15 et du 16, plusieurs réunions ont lieu entre responsables de l'armée, du Mossad et des phalanges, affirmant Sharon, qui n'était pas à l'aise avec l'idée d'envoyer les phalanges dans les camps. Drori témoignera du fait qu'il a tenté de persuader le commandant de l'armée libanaise de se substituer aux phalanges. En vain, l'ordre d'entrée dans les camps est confirmé. Les premières exactions commencent le soir du jeudi 16 septembre. Le camp est éclairé à l'aide de tirs de mortier et d'un avion. À 19h, un lieutenant israélien qui assiste aux conversations par radio entre Eli Aboké, OBK, présent au QG et ses troupes, comprend que celui-ci ordonne le meurtre de 50 femmes et enfants et présente un rapport au général Yaron, présent sur le toit de l'immeuble. À 20h, les phalangistes rencontrent une riposte armée. L'armée israélienne interrompt provisoirement l'éclairage. À la même heure, un autre rapport fait état de 300 Palestiniens tués, civils et militants confondus. À 20h40, lors d'un point enregistré par le général Yaron, un officier de renseignement fait état de la situation. Il indique que les phalangistes ont eu 2 blessés, qu'il semble ne pas y avoir de terroristes dans le camp et que les phalangistes ont rassemblé des femmes et des enfants et des vieillards. Il commence à indiquer que, selon lui, il est toujours possible que les phalangistes amènent ces personnes hors du camp et il est au courant du rapport présageant de la volonté de tuer des civils. Il est interrompu par le général Yaron qui refute l'hypothèse et indique qu'aucun mal ne sera fait à ces civils. Le vendredi matin, un officier israélien présent dans le camp prévient que les massacres ne se sont pas arrêtés. Un autre insiste pour avoir savoir si le rapport concernant les 300 exécutions de la nuit a bien été envoyé au plus haut responsable et insiste pour qu'il le soit. Un journaliste informé des massacres prend contact avec le ministre Zipori pour le convaincre d'agir. Dans la journée du vendredi, dès l'aube, plusieurs soldats et officiers sont témoins de meurtres de civils aux alentours du camp. L'un d'entre eux souhaite faire un rapport à ses autorités, mais est dissuadé par ses camarades qui lui indiquent que le fait a déjà été signalé et que la réponse a été faite de ne pas interférer. Dans l'après-midi, les témoignages oraux sont de plus en plus nombreux. À 16 heures, le commandant en chef de Tsahal, Raphaël Etan, tient une réunion avec les phalangistes qu'il félicite. Ceux-ci indiquent avoir fini leurs opérations. Il en ressort qu'à la suite de pressions américaines, il est nécessaire qu'ils évacuent le camp le lendemain à 5 heures du matin au plus tard. Les phalangistes demandent l'autorisation de faire entrer des troupes supplémentaires, ce qu'il aurait refusé. Et ils demandent qu'on mette à leur disposition des tracteurs afin de détruire des constructions illégales, ce qui leur est accordé. Le général israélien Iron exige alors du chef des phalangistes chrétiens qu'il retire ses hommes. Les phalangistes obéissent et les derniers d'entre eux quittent le camp à 8 heures du matin. Femmes et enfants ont été rassemblés dans un stade voisin, tandis que les hommes étaient exécutés sur place ou emportés en camion. On découvre alors que les phalangistes ont tué, outre des combattants palestiniens, des civils en grand nombre. Les employés de la Croix-Rouge et des journalistes arrivent sur place et informent le monde entier. Quand Ariel Sharon et Raphaël Etan annoncent les tueries qui ont cessé d'être et que les phalangistes ont été expulsés des camps, il est trop tard. Il y aurait eu 900 réfugiés palestiniens tués. Les chiffres de morts et de disparus demeure dans le plus grand flou. Il varie selon les estimations de 500 à 5000, un nombre indéterminé de cadavres ayant été emportés par camion par les phalangistes lors de leur retrait des camps. Les réactions à ce massacre. Les réactions les plus virulentes proviennent d'Israël. À la Knesset, des députés interpellent Ariel Sharon sur la responsabilité d'Israël. Le mouvement extra-parlementaire de gauche, La Paix Maintenant, appelle à manifester. Le 16 décembre 1982, lors de la 108e réunion, l'Assemblée générale des Nations unies qualifie les événements de massacres à grande échelle et actes de génocide. Les responsabilités libanaises. Eli Obeka était le responsable des services secrets libanais. Son rôle de leader et de responsable direct des massacres est unanimement reconnu. La participation de l'armée du Liban Sud, théoriquement stationné au sud du fleuve Litanie, est attesté par des témoignages concordants. Le 28 mars 1991, le Parlement libanais exempte rétroactivement de toute responsabilité pénale les miliciens de toutes les factions libanaises impliquées dans les crimes et massacres commis au Liban par une loi d'amnistie générale, y compris ceux de Sabra et Shatila. Les responsabilités israéliennes, la commission MacBride, indépendante, organisée en 82 et dirigée donc par Mark Breed, cofondateur d'Amnesty International, met en cause la responsabilité d'Israël sans toutefois parvenir à établir une version irréfutable des faits. La commission Kahane, à la suite de ces événements, la pression de l'opinion, le gouvernement israélien nomme une commission officielle d'enquête dirigée par Itzhak Kahane, juge à la Cour suprême. Elle entend d'abord en audience publique Ariel Sharon, qui reconnaît avoir envoyé les phalanges dans les camps et n'avoir pas informé Néamen Begin et avoir autorisé Raphaël Etan à reporter au lendemain le départ des phalanges une fois connu le carnage. Le 7 février 1983, la commission confirme la culpabilité des milices chrétiennes libanaises et reconnaît Ariel Sharon indirectement responsable pour n'avoir pas prévu la tragédie qui résultait de l'entrée des phalangistes dans les camps palestiniens. Dans sa conclusion, la commission Kahane évoque l'argument selon lequel, écoutez bien, chers auditeurs, des massacres ont eu lieu auparavant au Liban, avec des victimes beaucoup plus nombreuses qu'à Sabra et Shatila. Mais l'opinion publique mondiale n'en a pas été émue et aucune commission d'enquête n'a été établie. Ainsi, elle rejette cet argument, soulignant que l'objectif de son enquête est de préserver l'intégrité morale d'Israël et de son fonctionnement en tant qu'État démocratique. Pour la gloire, en Belgique, une plainte visant Ariel Sharon, Amos Yaron et d'autres responsables israéliens est engagée par 23 rescapés des tueries en vertu de la loi dite de compétence universelle. Cet épisode judiciaire a fortement déplu à la presse et à la diplomatie de l'État d'Israël. Sharon ne sera jamais jugé sur le fond, la loi de compétence universelle étant vidée de sa substance en août 2003, avant la fin de ses fonctions de ministre. Nous parlons de Sharon. Plusieurs éléments font état de la présence de soldats israéliens dans les camps pendant ou avant les massacres, en contradiction avec les rapports Kahan, mais une partie d'entre eux est controversée. Deux femmes rescapées affirment 20 ans après, dans un témoignage recueilli par le journaliste Pierre Péan, avoir vu dans le camp des soldats israéliens agir aux côtés des phalangistes pendant le massacre. Toujours dans le même article, Pierre Péan affirme avoir reçu d'un autre journaliste israélien, Amir Oren, une analyse selon laquelle un article de Davar du 1er juillet 1994, les massacres faisaient partie d'un plan décidé entre M. Ariel Sharon et Béchir Gemayel, qui utilisèrent les services secrets israéliens, dirigés alors par Abraham Shalom, qui avait reçu l'ordre d'exterminer tous les terroristes. Les milices libanaises n'étaient rien moins que des agents dans la ligne de commandement qui conduisait, via les services, aux autorités israéliennes. Cette analyse est démentie 10 ans après par le mensuel L'Arche. Le journaliste Alain Ménarque, dans son livre « Les secrets de la guerre du Liban », invoque des éléments nouveaux faisant état d'une incursion préalable de commandos d'élite israéliens dans la Seirat Matkal, dans les camps palestiniens où ils se seraient livrés à des exécutions sommaires de cadres de l'OLP. Cependant, ce journaliste ne publie aucun document à l'appui de ses dires et son livre donne lieu à controverse. Chers amis, je viens donc de terminer cet épisode douloureux où l'État d'Israël, qui pour une fois s'était battu non pas contre des pays mais contre des organisations terroristes, a été le témoin de massacres, mais surtout de vengeance entre Libanais et l'OLP. Lors de notre prochaine émission, nous parlerons de la guerre de 2006. Merci de votre écoute.
Près de vous.